Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille en cette édition d'Aime la vie du mardi 18 septembre 2018. J'espère, oui, que vous allez bien. J'ai failli vous accueillir avec un atchoum très fort au micro, mais ça a bien été finalement. J'ai eu... mon timing était bon. Je ne suis pas seule. Robert Blondin, bonjour.
Bonjour, faites ça, c'est beau.
T'es sarcastique un petit peu.
Il fait beau.
Tu trouves? Moi, je trouve que c'est...
On est au-dessus de la moyenne.
Ah, mais là, tu parles d'une générale... Ben oui, il fait très beau.
Il fait super beau.
Et le week-end était absolument exceptionnel, on va se le dire.
J'en veux d'autres.
Je t'en souhaite d'autres, mais je pense qu'on va en avoir d'autres quand même. L'été des Indiens s'avère... Ben, il est présent, il est juste pas parti finalement. On se le souhaite jusqu'en octobre, on lance un défi.
Tu fais de la récupération autochtone. Laisse-leur leur été, ils vont se choquer.
Bon, aujourd'hui à l'émission, on parle de bonnes nouvelles, on parle, de nouvelles qui font du bien, en commençant par des nouvelles qui touchent le taux de suicide à travers le monde, preuve qu'on peut parler de bonnes nouvelles sur des sujets aussi difficiles et aussi lourds. Des fois, il y a des petites parcelles de lumière qui s'y trouvent et on est là pour les mettre de l'avant également à l'émission. Aujourd'hui, on reçoit Jacques Tremblay, bénévole à Visez-Voix et coordonnateur de la deuxième édition du souper littéraire dégusté à l'aveugle. Robert, tu nous parleras de ce qui t'a réjoui cette semaine également. Une chronique nouvelle aussi à l'émission. François Baruel va venir nous parler de bonnes nouvelles concernant la santé. On retrouve toujours notre cœur d'enfant avec les fables de La Fontaine et les chroniques, la chronique de journée mondiale et internationale de la semaine va encore avoir lieu parce qu'on a toujours beaucoup de plaisir à raconter ces anecdotes qu'on ne sait pas sur ces journées que parfois on connaît, parfois on ne connaît pas. Des fois, on en découvre... des ludiques et j'ai pas mon dire. En tout cas, moi, c'est mon petit bonbon de la semaine. Bienvenue à Aime la vie.
Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you.
Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need.
Only a genius could love a woman like
oh
you.
Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need.
Only a genius could love a woman like
I'm
you.
I'm a genius.
See ya.
You'll be my Einstein, my Newton, my Galilei, all of my Hawkins. Boy, put the pep in my step, put your arm on my neck while I'm walking. Please understand, yeah, I'm falling for you. You.
What you say?
Oh my God, baby, baby, don't you see?
Genius.
On vient d'entendre le groupe LSD avec la chanson Genius, qui, à mon sens, est du génie musicalement sur le plan d'interprétation. Il y a un paquet d'affaires là-dedans. C'est vraiment génial. C'est bien monté. C'est le groupe composé de Diplo, Sia et Labyrinth, qui ont des carrières solo absolument incroyables. Mais Sia, je veux dire, c'est Sia, là.
Ben oui.
Non, mais toi... T'aurais tout intérêt à aller écouter cette grande
j'ai
dame.
J'ai écouté attentivement, je trouve très intéressant.
Cette formation-là, elle est absolument incroyable. Les chansons qu'ils font sont très riches. Et il y a un album qui était prévu, ou qui est encore prévu en
c'est
tout cas.
C'est très, très rigoureux, musicalement parlant. Hein.
C'est va dire pas, comme ça, c'est tight.
Ouais, c'est tight.
C'est assez tight. Alors, c'était ça pour notre chronique musicale, en espérant que l'album sorte bientôt. Il y a des choses qui se passent dans le monde et qui sont belles, et ça touche tout. Je pense que la beauté n'a pas de limite, et le positif non plus. Et on parle, je vous parle aujourd'hui de bonnes nouvelles sur le plan du suicide. Cette idée-là qu'on se donne la mort, pas parce qu'on veut arrêter de vivre, mais bien parce qu'on veut arrêter de souffrir plus souvent qu'autrement. On veut que quelque chose cesse, et c'est souvent pas la vie elle-même. C'est une problématique qui est partout dans le monde, qui touche, qui peut toucher tout le monde à un moment ou à un autre. Des suicidaires, là, il y a des grades, mais quand même. Et aujourd'hui, je me suis penchée sur ce qui se passait dans le monde par rapport à ça. À commencer par le Japon. Le taux de suicide sur les voies ferrées au Japon, mais sur les voies de transport ferroviaire, on parle de métro, on parle de train de banlieue, de train de ville, etc., a diminué drastiquement avec une solution qui s'avérait super simple. En fait, cette solution-là a été instaurée suite à des études empiriques basées sur le fait que la nature et la lumière ont un rôle capital à jouer dans la restauration de la santé mentale. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Et c'est avec des lumières bleues qu'on y est parvenu, et un petit peu par accident. Moi, je pense tout le temps que les meilleures découvertes sont un petit peu faites par accident, parce qu'on sort de notre tête dans ce temps-là et on va où on pensait pas que ça allait marcher. Le suicide sur les voies ferrées au Japon, c'est un fléau incroyable, et le gouvernement avait choisi comme plan d'action d'installer des barrières préventives dans les 243 stations d'ici 2023. Mais c'est une installation qui est longue, qui est coûteuse. Et en attendant, on a utilisé les lumières bleues LED dans les stations pour appuyer la démarche. Et en 10 ans, c'est une diminution de 84 % de suicides sur les voies ferrées qu'on observe. Et c'est au Royaume-Uni que ces études-là prouvent l'efficacité de ces lumières. Et donc, on a copié ce modèle-là.
C'est dans les stations qu'on installe les lumières bleues?
Oui, ah oui, oui, oui. Oui. Et ça a bien fonctionné, donc c'est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus rapide à installer. C'est une très, très bonne nouvelle. Il y a également actuellement un traitement magnétique sur le cerveau qui est en train d'être étudié, qui serait efficace pour effacer les pensées suicidaires, et ce, drastiquement chez les patients dépressifs. Et pas n'importe lesquels patients, on parle vraiment des patients qualifiés de difficiles à traiter ou même résistants au traitement usuel. C'est 600 000 Canadiens par année qui sont touchés, qui ont ce titre-là, résistant au traitement. Il y a seulement 1 % de ces patients-là actuellement qui ont accès au traitement dont on parle ici. Cette technique-là, c'est une impulsion magnétique qui a marché sur 40 % des patients. Donc, c'est la moitié des patients qui répondaient à absolument rien qui maintenant répondent à quelque chose. C'est non négligeable là, comme conclusion, comme résultat clinique. Et ces patients-là ne présentaient plus aucune pensée suicidaire. On conclut avec ces études-là que de travailler sur le lobe frontal et la cible numéro 1 avec les impulsions magnétiques. Il y a plusieurs autres études qui doivent être menées, mais quand même, il faut se le dire, c'est 90 % des gens qui tentent, qui font une tentative de suicide, qui sont atteints de troubles de santé mentale quelconques. Donc là, on ne touche pas juste la dépression. On parle de pensée suicidaire. Donc, on parle de dépression, d'anxiété, de troubles obsessionnels compulsifs, de schizophrénie, d'état de stress post-traumatique. C'est plusieurs clientèles qu'on peut aider.
Mais c'est important ce que tu dis, de le suicide dans un cours normal d'une vie quand ces événements-là arrivent. Ouais. Il faut le dissocier des fins de vie.
Ouais.
Hein, avec l'aide à mourir, la mort assistée finalement. Parce que malheureusement, quand tu ne peux pas avoir de mort assistée, tu penses à un suicide, mais ça devient l'ultime dignité, ton suicide. Mm-hmm, mm-hmm. Mais si on peut l'aider, tant mieux. Mais il faut garder cette ouverture-là. je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut combattre le suicide pendant toute la vie, mais à la fin de la vie, il faut peut-être l'aider.
C'est une distinction qui est très, très grande et de toute façon, ben, on pourrait en parler longuement de ça, mais oui, effectivement, de choisir la dignité parce que de toute façon, la fin approche versus arrêter sa vie parce qu'on ne voit pas d'espoir ou on n'en a pas. C'est deux choses absolument complètement différentes. On ne demande pas moins que des aides existent et que je suis contente de voir qu'à travers le monde, on s'en occupe d'une manière ou d'une autre.
Cherche à comprendre, cherche pas à chercher. Tu veux te défendre, faudrait d'abord être en danger. J'ai une version en couleur, une version noir et blanc, qui donne des chaleurs à ton cœur adolescent. Gemini s'est mis à poudrer son nez. J'ai écrit Abel clou dans les pieds. 2000 ans après, c'est encore de ta faute. Ça peut pas t'empêcher de tout déchirer.
C'était Hubert Lenoir avec la chanson GC. Et comme l'a si bien dit Maurice Bolduc à la régie, est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est Jean-Claude ou encore GC Lauzon? Nous ne savons pas, mais cette chanson, elle est très, très bonne. En tout cas, Hubert Lenoir, comme tu l'as dit si bien, Robert, qui fait un malheur actuellement. Et c'est pas parce qu'il n'aura pas pris de risque. Et je vois à travers cette fenêtre, mais qui est-ce? C'est notre invité, Jacques. Jacques est présent. On va le laisser rentrer en studio. Jacques Tremblay, qui est bénévole à Vues et Voix et coordonnateur de la deuxième édition du souper littéraire dégusté à l'aveugle. Jacques, je te laisse le temps de t'asseoir parmi nous.
Je vais rapprocher le micro. Et que c'est comme si de rien n'était.
Comment cela va?
Ça va très, très bien, surtout à quelques jours de cet événement là, auquel vous faites référence.
C'est lundi prochain.
C'est lundi prochain et demain... Non, cet après-midi, c'est la générale. Donc, on va minuter, on va
réchauffer. Mais qu'est-ce qui nous attend dans cette soirée-là, premièrement? Qu'est-ce qu'on minute?
Bon, d'abord, c'est un projet, qu'on mène depuis 2 ans. C'est la 2e édition dans le cadre du Festival international de la littérature. Alors moi, j'assiste depuis quelques années à des événements au festival. Et qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est des auteurs, c'est des comédiens, c'est des musiciens qui se joignent à ces gens-là et qui font des spectacles dans des salles de théâtre, dans des endroits publics, etc. Mais l'élément visuel est extrêmement important dans la plupart de ces représentations-là et l'élément musical.
Parce qu'il y a un niveau d'interprétation qui est fait avec la lecture que là, on n'a pas accès à.
Exactement. C'est bien ça? Alors, je me disais, qu'est-ce qu'on est, nous, comme organisation Vues et Voix, qui gère, entre autres, le Canal M? On est, dans le fond, l'expression de gens qui n'ont pas accès à ces modes de communication-là, c'est-à-dire la vision, mm-hmm. la vue. Alors, on s'est dit, comment connaissent-ils la littérature? Ben, c'est à travers les livres adaptés qu'on leur produit. Comment faire reconnaître cette mission-là, la faire apprécier? Eh bien, on s'est dit, on va offrir au public, en général, la possibilité d'être dans les conditions d'un non-voyant pour apprécier la littérature.
Donc, on se prive de certains sens pour peut-être avoir un monde plus riche intérieurement, d'avoir travaillé notre imagination et de goûter à cette réalité-là qui a toute une richesse en elle-même. C'est lundi prochain, le 24 septembre à 18h.
Mm-hmm. C'est bien ce que vous dites là, parce que dans le fond, le thème qu'on a donné cette année à la lecture, c'est la cécité quand les autres sens prennent le relais. Et dans ce sens-là, c'est l'ouïe, c'est l'oreille, c'est le goûter, parce que le repas est extrêmement important dans ce cas-ci. Donc, c'est une façon de partager la littérature en même temps qu'on partage un repas.
Et vous n'avez pas choisi n'importe quel endroit pour que cet événement-là se tienne?
Ceux qui connaissent le restaurant Au Noir savent que c'est le seul endroit en ville. Mm-hmm. Oh, peut-être, il y en a un deuxième.
Je pense que oui, mais...
Il y en a un deuxième, mais il y en a deux en ville qui offrent la possibilité, comme ça, aux convives de manger dans la noirceur la plus totale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un volet... social dans cette entreprise de restauration qui emploie des serveurs à quasi non-voyants. Autrement dit, ça pourrait pas être des aveugles complets, mais c'est des gens qui ont perdu jusqu'à 90-95% de leur capacité de vision qui offre le
Comment
service.
Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est dans les ténèbres ou si simplement on se met un bandeau sur les yeux?
Ah non, on est dans les ténèbres, justement. Et les téléphones cellulaires, les flashlights,
tout
les
ce qui peut faire qu'on triche
sont proscrits.
Pas de trichage.
Et dans ce sens-là, ceux qui ont vécu l'expérience l'an dernier, comme ceux qui l'avaient vécu autrement, moi je l'avais déjà vécu une fois, cette expérience-là, et il y a un malaise là, qui s'installe.
C'est vrai.
Le noir, mais quand il y a du silence, c'est rempli par le bruit. Je sais, pour l'avoir vécu avant notre souper au noir, il y a beaucoup de bruit parce qu'on sent le besoin d'emplir l'espace quand on est dans le noir et qu'on a l'habitude de voir.
C'est souvent inconfortable.
Comment on manipule la nourriture?
La cuisine est conçue en conséquence. Autrement dit, par exemple, il y a le magret de canard qui est au programme, entre autres, un des mets qui est offert. Alors, les tranches sont préalablement coupées en cuisine et puis la sauce et l'accompagnement est conçu pour que la fraîcheur du mets et que la pleine saveur du mets soit, mettons, n'exige pas l'utilisation d'un couteau. Mais il y a quand même couteau-fourchette et on peut s'amuser à redécouper le morceau de viande qu'on a dans l'assiette. Et on nous explique tout ça quand on entre. Autrement dit, les serveurs sont habitués à conduire les gens, mettre la main sur l'épaule du serveur.
Oui, on se fait reconduire jusqu'à notre table.
Jusqu'à notre table. Ça vous est déjà arrivé?
Non,
on se fait reconduire comme ça?
Non, mais j'ai vu des films où ils font ça. Non, sincèrement, je connais un petit peu le fonctionnement, mais j'ai jamais été.
Ça doit être absolument fascinant.
Ça doit être vraiment,
et en même temps, insécurisant pour bien des gens.
Oui, et un des témoignages qu'on a eu l'an dernier, c'est « Je me sentais en situation d'insécurité, mais dès que vous commenciez à parler, c'était l'apaisement. » Alors, en fait, on va offrir de l'apaisement à des gens qui, dans des conditions autres, seraient plutôt paniqués et angoissés. Alors, c'est un peu l'originalité de l'expérience qu'on propose.
On dépasse vraiment un événement littéraire qu'on peut qualifier d'ordinaire ou de normatif. Oui. On va vraiment plus loin. Je rappelle que le restaurant Au Noir se situe au 124 rue Prince-Arthur-Est. Le prix d'entrée, c'est combien, Jean?
C'est le prix du repas. Autrement dit, la prestation littéraire est offerte
gratuite
par Vues et Voix. Le repas est d'une quarantaine de dollars plus taxes et services. Ça fait 55 dollars. C'est 3 services. Hein? Donc, et c'est une gastronomie qui dépasse celle du restaurant du coin. Là.
Il faut réserver à l'avance?
faut réserver, il faut s'inscrire.
Nos billets, on peut les réserver.
Ouais. Quelques places.
Ça s'en vient limité,
oui,
là.
Alors, on s'adresse à Vusevoix, tout simplement, on réserve. Ou on peut sur Eventbrite, apparemment, souper littéraire au noir. Mais il y a quelques frais, alors qu'à Vusevoix, directement,
c'est direct.
Au numéro de téléphone.
Donc, le canalm.vusevoix.com ou le vusevoix.com. Vous pouvez vous rendre également sur nos réseaux sociaux. Toutes les informations. S'y trouve et on peut entendre, entre autres, dans la programmation, un extrait de La jeune fille au piano de Louise Lacourcière, également Je veux croire au soleil de Jacques Semelin, John Hall, Jean-François Beauchemin, extrait de J'attends Joséphine qui a été publié à l'automne 2017. Jacques, c'est tout le temps qu'on avait, mais vraiment, c'est à ne pas manquer. C'est lundi prochain, le 24 septembre, à 18h, et les billets peuvent être. On peut se les procurer immédiatement.
On téléphone à Vusevoix et à ce moment-là, c'est réglé. On paye par carte de crédit.
Merci.
Bon appétit.
Merci.
On vient d'entendre la chanson Corinne des Trois Accords et des Trois Accords, oui, des Trois Accords, un groupe qui me fait toujours beaucoup rire. Et maintenant, on tombe dans ces histoires qui sont cocasses, mais qui sont, somme toute, assez sérieuses, qui ont une morale réelle, intéressante, qui nous font réfléchir. Et pour fêter son 350e anniversaire, on se fait le grand plaisir de se faire lire une fable de Jean Lafontaine par nul autre que toi-même, Robert Blondin.
Ben, c'est une fable que j'ai, qui est devenue très, très jeune dans ma vie. À l'adolescence, quand on nous montrait les fables de Jean de La Fontaine, celle-là est devenue une espèce de religion pour moi, une philosophie de base de la vie. Je pense que j'ai basé tout ce que j'ai réussi et tout ce que j'ai pu faire comme délinquance sur
Jean de La Fontaine était ta muse?
Ah oui, oui. Tu mets cette fable, en tout cas.
Ben, ah, celle-là, OK. Oui, oui parce que si
le
vous étiez...
loup et le chien.
Si vous étiez des nôtres la semaine dernière, tu t'étais lancé et je ne voulais pas. Et là, cette
c'est
semaine, je me suis
plus fort que moi. Quand j'entends le loup et le chien, je pars.
On t'écoute.
Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sur l'eau lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le mâtin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, il lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, » lui repartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables, cancres, hères et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche, l'épée tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire? » Oh, presque rien, dit le chien, donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ? » lui dit-il. « Rien. »« Quoi ? » ?»« Rien. Peu de choses. »« Mais encore. »« Oh, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. »« Attaché ! » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Bah, pas toujours, mais qu'importe, il importe si bien !» que de tous vos repas, je n'en veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore.
Et la morale de cette histoire est...
Be free.
Aucune perte de liberté.
Jamais.
Rien ne vaut une perte
Jamais
de liberté.
Jamais perdre sa liberté.
Merci, Robert. Écoutez toujours Aime la vie en cette édition du mardi 18 septembre 2018. Il est midi 30. Emmanuel Robitaille avec vous encore pour la prochaine demi-heure, accompagné de Robert Blondin. À venir à l'émission, Robert, tu nous parles de ce qui t'a réjoui cette semaine. Également, François Baruel nous parle des bonnes nouvelles concernant la santé. On parle des journées mondiales et internationales de la semaine et on espère un petit peu discuter de ce qu'on aime, parce qu'on aime la vie. On partage.
Ben ouais.
Ah ouais.
You ain't the first one to care for what's hiding inside. Ain't the first to fall to notice you can't have it all. I ain't a cold hearted man. I won't give you false hopes, but I ain't made of stone. Got limits, I'll get weak if you get too close. Somehow this is what I'm used to. Easy as it goes. Smoking on my downtime. Sleeping on my own. Trying to keep up with your pace, but I'm growing up. Guess I'm getting tired of. And I've been meaning to tell you what's been on my mind. I'm just scared you're leaving, left alone too many times. Somehow this is what I'm used to. Easy as it goes.
crazy as a ghost. Smoking on my downtown, sleeping on my own.
On My Own de Geoffroy, chanteur québécois qu'on a découvert à La Voix, deuxième édition, si je ne me trompe pas. Geoffroy qui se voit avoir une très belle carrière actuellement. Il se promène, on est fiers de lui. Je le salue en passant. En studio, mon co-animateur des mercredis à M l'été de cet été que je retrouve avec grand bonheur, François Baruel. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue en studio. Comment vas-tu?
Très bien. Et toi?
Ça va très bien.
Apparemment, tu vas très bien.
Ah, moi, je pète le feu.
Ah oui, ça se voit.
Je pète le feu. Et François, l'automne, ça démarre bien pour toi, pas trop endeuillé de cet été qui n'est pas réellement fini au final.
Continue, ben non, j'espère bien.
La nature est très généreuse avec nous. On a eu la bonne idée que tu sois notre pilier, notre référence en bonne nouvelle sur le plan de la santé, bien sûr.
Ça, et il y en a beaucoup. Hein?
Oui, il faut regarder aux bonnes places. Il y a toujours de quoi d'extraordinaire.
Alors, il y a des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que l'activité sexuelle est bonne pour le cœur. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, c'est bon pour le cœur à partir du moment où, bien sûr, on est capable, sans risque, de monter deux étages. Parce qu'en fait, un rapport sexuel...
OK, il y a vraiment...
Okay. Mais ouais, un rapport sexuel, c'est à peu près deux étages.
Monter deux étages, c'est pour rejoindre la dame,
ça? Ça peut, vous êtes capable!
Ça peut, oui, tout à fait, mais à ce moment-là... Il faut peut-être prendre un petit moment de repos avant.
Quand je monte.
Donc,
exactement, c'est ça.
Quand on peut aller rejoindre notre partenaire sexuel au deuxième étage, on sait qu'on peut passer à l'acte.
Voilà, exactement.
Prends pas l'ascenseur.
Triche pas, oui, c'est ça.
Ou alors, c'est pour se réserver.
Donc, c'est l'OMS qui donnait...
Alors, ça, c'est l'âge qui nous permet ça.
C'est l'OMS qui nous informait de cette étude-là qui a été faite.
Tout à fait, exactement. C'est l'OMS qui accepte cette affaire-là. C'était une étude qui a été faite au CHU de Rennes, en France. Et on s'aperçoit qu'à partir du moment où, même si on a eu un infarctus du myocarde, même si on a une angine de poitrine, même si on a quoi que ce soit, même un trouble de rythme, ça n'empêche pas d'avoir une activité sexuelle, que
sans
homme
risque.
Ou femme. Alors évidemment, on parle plus des hommes, parce que ce sont les hommes. On se souvient du fameux président français qui était mort, qui avait perdu sa connaissance, qui était sorti par la petite porte de derrière.
Moi, je ne me rappelle pas de ça. Non, tu...
C'est de notre âge.
Okay. C'est de notre âge. Et en fait, il y a 10 fois plus d'hommes, en effet, qui ont des accidents au moment des rapports cardiaques. Enfin, c'est très des rapports sexuels, mais en même temps, c'est très faible, puisque c'est 1,9 pour 1000 pour les hommes et 1,6 pour 10 000 pour les femmes.
Mais c'est ça. Ça, c'est comme les attaques de requins. Il y en a tellement peu, sauf que c'est tellement traumatisant qu'on en parle.
On en parle énormément.
C'est fréquent.
Mais c'est passé, justement, dans la croyance populaire. On se dit, ah ben non, je suis cardiaque, oh là là, c'est épouvantable, je peux pas. Ben non, si, on peut très bien, il n'y a aucun aucun souci.
Il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir de rapport sexuel à tout âge.
Aucune excuse, exactement. Et d'autant plus que c'est même un exercice, et c'est le cœur est un muscle cardiaque, est un muscle. Il ne faut pas l'oublier. Le muscle cardiaque s'entraîne exactement comme n'importe quel autre muscle.
Donc c'est très bon.
Mais oui.
C'est pas contraint.
Encore faut-il choisir ses positions.
Et tout dépend de la technique, de la manière, du rythme et de la fougue. Tout dépend, bien entendu. Mais justement, à partir du moment où on sait monter deux étages...
Fiez-vous au rythme. Question de santé, fiez-vous au rythme du boléro de Ravel, tout ira bien.
Tu nous amènes dans un sujet tout autre cette fois-là.
Oui.
Par rapport à une étude qui a été faite à l'Université McGill concernant la tuberculose, maladie dont on entend très...
Alors la tuberculose, maintenant...
On peut voir plus parler, non?
La tuberculose est maintenant... On sait qu'elle est totalement multirésistante et que grâce à McGill... Et ça a été accepté aussi par l'OMS.
Par multirésistante, je t'arrête, je veux juste vérifier. Par multirésistante, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, elle reste là?
Oui, elle reste là. Elle n'est plus guérissable maintenant. Elle n'était plus guérissable maintenant, mais maintenant, à McGill, on a découvert des médicaments qui sont maintenant efficaces et qui suppriment toutes les souches. Toutes les souches. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est une véritable petite révolution. Parce que tous les gens qui étaient immunodéprimés et qui étaient sous traitement, parfois, c'était une complication extrêmement grave. Maintenant, ça y est, on va pouvoir probablement, je dis bien probablement parce que c'est une étude qui est en fin d'étude.
On est encore en train de faire des essais cliniques, j'imagine.
Exactement.
Sur des humains, on fait ça sur des humains, on n'est pas au stade souris, on est au stade humain.
Et là, maintenant, ça marche. Donc, on peut sauver tous les gens, enfin, ceux qui ont une tuberculose.
De toute façon, il ne faut pas oublier que la tuberculose, il y a des bons côtés à tout, nous a donné des grandes œuvres. La Traviata, la Dame aux Camélias, c'est sur la tuberculose.
Oui, tout absolument. Est source d'inspiration et de créativité. Il faut simplement savoir faire de quelque chose de bon de l'adversité qui est devant nous. François Baruel, merci infiniment pour ces bonnes nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine?
Mais peut-être bien, oui, avec plaisir.
Merci.
Ça fera du bruit. Y a de quoi être fier si quelqu'un t'envie. Faut jouer le jeu de la poudre aux yeux. Ça va plaire, monsieur, monsieur. Tu ne t'es jamais douté que la terre est ronde. Mais tu sais les faire tourner autour de ton monde. Faut jouer le jeu de la poudre aux yeux. Ça va plaire, hein, monsieur, monsieur.
Oh, 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 oh
C'était la chanson La ville s'endort de Mélissa Ouimet. J'en profite pour vous dire qu'ici à Aime la vie, on vous passe des chansons qui sont les sorties du mois de septembre sur le palmarès de la disque des sorties québécoises majoritairement. Donc on en profite pour saluer nos artistes d'ici. Robert.
Oui.
Bon, je sais que sourire, c'est une de tes activités favorites.
Oui, c'est connu, oui.
Oui, c'est ça. Oui. Ben, quand même!
Non, tu veux savoir ce qui m'a réjoui cette
je
semaine?
Que
c'est,
une
la sortie, c'est la sortie d'un livre qui m'a réjoui cette semaine.
OK.
Je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, quand on avait parlé des études que j'avais dirigées sur le bonheur, je te disais que, qu'il y avait la seule façon qu'on connaissait de multiplier les connexions dans le cerveau, les synapses.
C'était par le corps calleux.
Par l'apprentissage de la musique. Oui. Or, Michel Rochon, qui est pianiste, mais qui est aussi l'ancien journaliste de Radio-Canada, parce qu'il est à sa retraite maintenant, sort un livre, là, ces jours-ci, qui s'appelle « Le cerveau et la musique », qui est un livre absolument extraordinaire. Oh. Okay? Et je vais te lire, il donne une conférence bientôt, je vais en parler à la fin de l'exposé, là, mais je vais simplement te lire la quatrième de couverture de son livre. Là, il va sortir ces jours-ci en librairie. Et ça, ça vient vraiment là, substantifier cette fameuse hypothèse de la synapsisation dans le cerveau. Un son, une note, une mélodie, et voilà, le cerveau en effervescence. Mais pourquoi certains airs arrivent-ils à nous tirer des larmes, à nous donner la chair de poule, à nous enthousiasmer ou à nous faire danser, hein? Pourquoi sommes-nous touchés par les symphonies de Beethoven, par les performances vocales de Céline Dion, par les rires endiablés de Tijan Carignan, ou encore les concerts d'Arcade Fire, par exemple? Bon. Bien sûr, tout commence par l'oreille, OK? Les ondes sonores produites par un piano, une flûte, un violon s'y engouffrent et sont transformées en influx nerveux pour rejoindre diverses régions du cerveau. Alors, journaliste scientifique aguerri, Michel Rochon nous entraîne dans ce livre-là dans une exploration fascinante du cerveau musical. Il nous révèle les plus récentes découvertes en intelligence artificielle, en neuropsychologie, en linguistique et même en mathématiques qui nous font comprendre autrement les harmonies sonores en musique. Nous ne sommes pas d'ailleurs au bout de nos surprises car les chercheurs cernent de mieux en mieux les bienfaits cliniques et thérapeutiques, en fait, de la musique. C'est ce dont on parle dans mes travaux sur le bonheur, mais maintenant, c'est vraiment scientifiquement établi. En fermant ce livre, vous ne pourrez plus entendre le rock, le jazz, le classique, l'opéra traditionnel, le rap, whatever, de la même manière. Il n'y a aucun doute, c'est la musique qui nous a rendus le plus humains. Alors, ce livre-là, vous pouvez le lire, ça s'appelle donc « Le cerveau et la musique », mais je veux surtout vous inviter, le 4 octobre prochain, c'est très bientôt, non? À 7h le soir, à l'UQAM, faites vos recherches là-dessus avec Michel Rochon, qui va donner une conférence illustrée au piano par lui-même. Et ça va être absolument fascinant comme conférence. 4 octobre, UQAM, 7h le soir, Michel Rochon, le cerveau.
Est-ce que tu sais si c'est payant, l'admission, ou c'est gratuit, ou... On sait pas.
Entrée libre.
Voilà. Donc, même pas besoin de réserver. On peut se présenter sur place. Très belle nouvelle. Et sincèrement, tu sais, oui, il peut être journaliste et également pianiste, mais la recherche qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose qui est poussé.
Il fait une synthèse de toutes les recherches qu'ils ont faites là-dessus. C'est extraordinaire.
Il y avait des expertises cachées, cet homme.
Oui.
Belle œuvre qu'il nous offre. Merci pour le partage, Robert.
You're thinking, leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can't see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know. Your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? What's down, down, body, body coming with the super hottie? Let's go, go slow, hell no. Baby, can you move it on the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the scene. Hey, brother, what you thinking? That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs and
your time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, gotta listen steady. Put down your brick, you're ready. It's hard when things get messy.
Caravan Palace, Lone Digger. Et on est à la chronique des Journées mondiales et internationales de la semaine. Cette chronique qui, chaque semaine, m'apporte un déchirement émotionnel intense. Je t'entends me dire, Robert, à l'oreille, détache-toi un petit peu émotionnellement. C'est juste une
J'ai
chronique,
rien
Emmanuel.
Dit du tout, t'as plus rien entendre.
J'entends que tu m'amènes à avoir un détachement émotionnel sur une simple chronique, mais je vais te dire que c'est vraiment un déchirement parce qu'il y a tellement de journées mondiales et internationales dans une semaine que ça devient vraiment difficile de faire un rendement juste, je dirais. Mais quand même, on va faire un topo, un tour d'horizon de ce qui nous attend cette semaine, la semaine du 18 au 24 septembre 2018, à commencer par le 21 septembre. Dans trois jours, c'est la Journée internationale de la paix, probablement une de mes journées préférées. Roulement d'yeux ici, Robert.
on espère tous la paix.
Oui, je le sais. Moi, je suis une idéaliste profonde assumée. Alors, une de mes journées préférées, vous allez vous en douter, parce que l'ONU, pour célébrer cette journée-là, l'ONU s'affilie, si je peux dire, au 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on a mis cette journée internationale de la paix de 2018 sous le thème du droit à la paix. Pour souligner ce 70e anniversaire-là, l'ONU en profite pour promouvoir la paix tant à l'intérieur des peuples qu'entre les peuples et nous rappelle qu'une société pacifique, c'est une société où la justice et l'égalité existent pour tous. La paix va permettre à un environnement durable de voir le jour et un environnement durable contribuera à promouvoir la paix. C'est pourquoi la paix est partie intégrante de l'objectif 16 du projet développement durable Horizon 2030 de l'ONU. Pour suivre les événements relatifs aux 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Journée mondiale de la paix, n'hésitez pas à taper le mot-clic « Stand up for human rights » sur les réseaux sociaux. « Stand up for », comme le chiffre 4, « human rights ». 21 septembre également, c'est la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et pour souligner cette journée-là, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer organise avec Essai clinique simplifié une matinée de conférences à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, et ce, à partir de 9h le matin. L'événement, il est gratuit et il est ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Société Alzheimer Canada au alzheimer.ca/fr/fédération québécoise dans l'onglet « Nouvelles et événements », sans parler bien sûr de d'autres journées du 21 septembre qui auront lieu, dont la Journée internationale de la bibliodiversité, qui veut souligner la diversité culturelle dans le monde du livre, et celle de la gastronomie, toutes deux se tenant également le 21 septembre. 22 septembre, Journée mondiale sans voiture. Avec un peu de perspicacité, là, vous devinerez assez vite ce qu'on vous invite à faire cette journée-là, c'est-à-dire de ne pas prendre votre véhicule, d'opter pour la marche ou le vélo, toute autre chose, ou du moins si vous avez à prendre votre voiture, essayez de faire du covoiturage le plus possible. Les transports en commun sont également une belle option. Cette année, ça tombe un samedi, donc c'est une belle opportunité pour faire une activité plein air en famille aussi. T'sais, aller faire un petit tour de vélo en couple, en famille.
Vas-tu prendre 15 secondes pour parler de la sécurité en voiture, puisqu'on est dans cette journée-là?
On peut faire tout ce qu'on veut.
On dit à tout le monde, nous on fait de la radio, puis tout le monde en font, puis les journalistes disent il faut pas conduire, puis lire son téléphone, puis faire des textos en même temps. Là. Mais celui qui vous parle, qui a prêché ça partout,
ouais.
Il y a quelques semaines à peine, il a regardé son téléphone pour voir quel message entrait, il y a eu un accident, sa voiture est une perte totale, je suis encore vivant, je suis bien chanceux. Alors faites pas comme moi, regardez pas votre téléphone en conduisant.
C'est une grosse. Tu l'as appris à la dure, par exemple.
J'ai pris 6 boulots de leçons.
Tu l'as appris à la dure, celle-là, Robert. Ouais. Là. Je veux dire, t'as eu peur, puis on a
personne
eu peur.
Personne n'est à l'abri de ce genre de conneries.
Mais non, on pense qu'on est responsable, mais tu sais, c'est des affaires qui arrivent tellement innocemment. Et vous pouvez programmer sur votre cellulaire également une petite fonction qui donne un message immédiat. Je te rappelle plus tard, je suis en voiture. Activons-la. C'est vraiment l'idéal. Moi, j'ai quelque chose qui tient mon cellulaire en face de moi parce que j'utilise souvent mon GPS. Mais outre ça, vraiment, c'est super important de prendre les mesures nécessaires pour le faire. Rapidement, le 23 septembre est la Journée internationale de la bisexualité, journée soulignée depuis 1999 et initiée par trois militants bisexuels, Wendy Curry, Michael Page et Gigi Raven. Ils nous rappellent que les communautés gays et lesbiennes se sont fait plus visibles à la suite des émeutes de Stonewall et la communauté bisexuelle aimerait devenir tout aussi visible. On dit alors non à la biphobie. Mais sincèrement, j'ai appris et je le crois et j'ai de la compassion et de l'empathie. Je comprends. La biphobie, c'est que ceux-ci sont une cible différente de la communauté homosexuelle et peut faire l'objet, aussi surprenamment soit-il, de discrimination et de préjugés de la part à la fois des hétérosexuels que des homosexuels. Donc, parce que c'est comme pas clair, puis là, c'est comme des pas vrais, ou écoutez, je sais pas. Tout ce qu'on se dit, c'est que c'est une réalité, elle est aussi valable que toutes les autres réalités, toutes les autres orientations sexuelles. Et elle se combine, cette journée internationale de la bisexualité, aux journées pour la lutte contre l'homophobie, oui, et la fierté gay, qui répondent pas à l'appel de leurs besoins actuel. Et finalement, le 29 septembre, ce sera la journée mondiale des personnes atteintes de surdité, créée le 28
septembre. Aucun rapport, hein?
Ah, oh, mais non! Ben non.
Non, il faut préciser.
je comprends pas.
C'est parce que t'es pas de la génération qui est la mienne et celle qui a précédé, où on leur disait à l'école ou au collège, la sexualité, pour ne pas dire la masturbation, ça rend sourd.
Oui, mais mon Dieu!
Ben oui.
Fallait-tu pas vouloir? Ça, c'est pieux, hein?
C'est
ça, c'est très judéo-chrétien, là, ça.
Là, c'est plus que de la tolérance, ça.
Seigneur, ben c'est ça. Ça a été créé le 28 septembre 1958 par la Fédération mondiale des sourds à Rome et en Italie, et elle se tient tous les derniers samedis du mois de septembre, donc ça aurait pu être un autre. Ben, c'est ça, une semaine d'intervalle, donc ça n'a absolument aucun lien. C'est dépassé, ça n'a aucun rapport. À l'origine, cette journée-là a été baptisée la Journée mondiale de la surdité, et ça a été reconnu en 1959 par l'ONU. On en profite alors pour sensibiliser la population sur la surdité et la réalité de la culture sourde, dont le langage des signes, entre autres. Et d'ailleurs, l'ONU a parallèlement fait du 23 septembre la Journée internationale du langage des signes. Et l'Organisation mondiale de la santé, quant à elle, a choisi le 3 mars comme niche à la Journée mondiale de l'audition. C'était les Journées mondiales et internationales de cette semaine. C'est déjà presque tout pour nous pour aujourd'hui. C'était. Je m'excuse, j'ai trouvé ça très drôle. Tu nous as fait un beau scroll.
C'est mon velcro.
Je suis un très bon public. T'es chanceux. Ça mérite pas de rire autant. Robert, ça a été encore un plaisir cette semaine de co-animer.
Toujours
avec toi,
un plaisir.
De t'avoir à mes côtés en studio. Maurice Bolduc en régie, merci infiniment d'être toujours là pour nous. Je remercie également Catherine Bourderon à la recherche. Merci également à François Baruel d'être venu nous parler de ses nouvelles en santé. Merci à Clotilde Seille pour l'aide à la réalisation de cette émission qui est toujours un grand plaisir d'animer, on va se le dire. Est-ce que tu vas être des nôtres encore mardi prochain, Robert?
Et je t'apporte un trésor que j'ai trouvé dans mes vieilles affaires. Tu vas mourir de plaisir à entendre ça.
Ça se pourrait, parce que bon public que je suis, c'est pas trop dur. Est-ce que je peux compter sur toi pour nous raconter une autre fable avec ce ton narrateur incomparable la semaine prochaine?
Ben, si tu veux, oui.
Oh, je veux. À la semaine prochaine.